Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Foot International, votre feuilleton quotidien du football aux quatre coins de la planète. Avec aujourd'hui trois acteurs de luxe, la crème de la crème de la presse sportive à l'image de celui qui a les yeux plissés, implacables, à l'image de Clint Eastwood. J'ai nommé Étienne Moati, bonjour.
Oui,
ça vous plaît la comparaison ?
Bah, je suis dans un secteur, les droits télé, où il y a pas mal de morts aussi, comme dans les films.
Ah, voilà,
bah,
vous avez toujours votre colt à portée de main, effectivement. Philippe Doucet et sa mèche à la Al Pacino. Également avec nous. Ah oui, non, mais j'ai le gratin là.
Aujourd'hui, c'est la crème de la crème.
Voilà.
Bonjour, monsieur Eric.
Comment ça va ?
Très bien.
Bien. Il est notre Dustin Hoffman, l'espiègle et inclassable Patrick Juillard.
Bonjour Eric,
voilà,
bonjour à toutes et à tous.
Rain Man, on ne sait pas. En tout cas.
Non, Marathon, je préfère
Marathon Man. C'est pas mal. Il était très doué, en tout cas, Rain Man. Et avec ce plateau de choix, nous allons notamment décortiquer ce nouveau record du Paris Saint-Germain. Après son résultat nul hier à Nantes, le voilà. À 39 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1, aucun club issu des 5 grands championnats européens n'a fait mieux. Un PSG qui toutefois ménage sa monture à 6 jours de sa demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera évidemment Arsenal. Ménagé, il le sera également ce week-end. Mis au repos, l'arbitre français François Le Texier, précaution ou sanction, après son erreur commise dimanche lors du derby Saint-Étienne-Lyon. Plus généralement, les arbitres, à l'instar des joueurs, doivent-ils se reposer ? Eux aussi, le débat sera ouvert. Le regain de forme de Manchester City, vainqueur hier d'Aston Villa, les Citizens confirment que leur mauvaise passe hivernale est terminée. Les voilà de retour dans cette course à la Ligue des Champions, extrêmement serrée cette saison en Première Ligue. À la préparation et à la réalisation de cette émission, nous avons également la crème de la crème, les incontournables Pierre-Olivier Guérin, David Finzel et Laurent Salerno. Moteur, ça tourne, action pour Radio Foot International.
Dembélé, cette fois, il a fait la passe en direction de Lille, la reprise. Oh. Ensuite, et Vitinha qui traînait par là, il en faut peu pour les Parisiens pour être efficaces. Ils sont invaincus, seront-ils invincibles ? En tout cas, le chemin paraît assez droit pour le PSG. La frappe finalement, le but pour égaliser Douglas Augusto. Paris champion, oui, Paris toujours invaincu aussi. Mais ce soir, ça n'aura pas été simple pour les hommes de Luis Enrique. En face, Nantes avec ce résultat nul. Un partout fait une bonne opération. C'est un vrai point bonus dans la course au maintien.
Un nouveau record pour le PSG en allant faire un partout hier à Nantes. Le club parisien a donc étendu à 39 sa série de matchs à l'extérieur sans défaite en Ligue 1. Il améliore ainsi. L'ancienne marque était de 39 matchs détenus depuis 1993 par le Milan AC, un record qui concerne les 5 grands championnats européens. Philippe Doucet, vous maniez les chiffres, hein, les statistiques, vous connaissez ça. Est-ce que c'est un record marquant, véritablement ?
Les records ne m'intéressent pas énormément et surtout en ce moment parce que on a finalement beaucoup de records. Alors ça ne concerne pas celui-là, mais on a beaucoup de records nouveaux parce qu'il y a de plus en plus de matchs, parce qu'il y a de plus en plus d'épreuves, il y a de plus en plus d'équipes, de déséquilibre entre les meilleurs et les moins bons. Donc finalement il y a plein de records
mais
qui
là,
n'ont pas grand intérêt.
Européen.
Celui-là il a un peu plus d'intérêt. Si ce n'est que évidemment si vous perdez des matchs chez vous pendant ce temps-là, quel est l'intérêt d'avoir un record à l'extérieur ? Enfin bon, je trouve qu'un peu que tous ces records, je trouve qu'on a aujourd'hui on est une période où on a besoin d'un record par semaine, c'est un peu fatigant. Mais il est vrai que c'est une énorme performance de rester invaincu depuis deux saisons, c'est ça ? Ça fait à peu près
ça
deux
fait,
saisons,
ouais, ça
un peu plus de deux
en...
saisons.
Ouais.
Donc c'est effectivement 2000, un...
fin février 2023 la série.
Mais ça
a démarré.
Ça reflète malheureusement l'écart grandissant entre le PSG et les autres. Quand on a 5 fois la masse salariale du deuxième du championnat, pas du deuxième, du deuxième club qui a la plus grosse masse salariale, ça change un peu la donne quand même.
Alors factuellement, le PSG fait mieux que le Milan AC. Le grand Milan AC des années 90, c'est ce que veut dire Étienne, que le PSG actuel est meilleur que le grand Milan AC. Bah oui, j'ose la comparaison.
Ce grand Milan AC là, lui, il gagnait des titres européens, donc forcément il y a une différence et qu'on répète semaine après semaine, donc aux oreilles des gens du Paris Saint-Germain qui évidemment espèrent encore cette saison que ce sera la bonne. Non, évidemment que non. Mais moi, je ne croyais pas du tout à ces histoires de records et je ne pensais pas que ça avait la moindre importance et que ça ne resterait dans la petite histoire du football. Et puis finalement, petit à petit, par exemple, ce record qui celui-là, pour moi, un peu plus d'importance, parce qu'il est plus clair, c'est celui de rester toute la saison invaincu. Ouais. Finalement, cette équipe d'Arsenal qui l'a faite, on en parle quand même très, très souvent. Donc, ça reste quand même un petit peu dans l'histoire et que je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, bah, ils commencent à y penser parce que d'abord, en Ligue 1, ils n'ont plus que ça à penser parce que le titre est déjà remporté depuis longtemps. Mais évidemment, c'est les titres qui restent. Mais ces petits records-là, ils ajoutent un petit peu de saveur quand même.
Demain, on sera en Italie. On aura notamment Matteo Cioffi pour parler du calcio italien. On lui demandera si ça a un impact là-bas en Italie, que le Milan AC soit dépossédé d'un record comme ça.
Il est possible que là-bas, ils disent « Ah non, ça compte, seul le top 4 compte ».
Ah oui, après chacun ses
critères. Il n'est pas impossible qu'il pense comme ça.
Il y a une petite trace de Milan AC Milan dans ce record, puisque Donnarumma est le gardien de but du PSG durant pratiquement tous les matchs qui ont compté pour établir cette nouvelle marque. Après, moi, je pense que c'est, comme l'a dit un petit peu Étienne, ces records, enfin cette course au record sert surtout à motiver les joueurs. C'est un peu une carotte. Le record de rester invincible, finir la saison sans perdre, ça pour celui-là, il aide le PSG à éviter un peu la médiocrité, le relâchement. Ou quand il y a relâchement, comme ça a été un peu le cas hier soir à Nantes, ce relâchement reste limité. L'équipe ne décompresse pas totalement. Un petit peu, mais ils ont réussi à maintenir un peu la main sur le pied sur le ballon. Et même le match contre Le Havre le week-end précédent, qui n'était pas brillant dans le contenu, le PSG a réussi à s'en sortir quand même. Peut-être que sans cette motivation-là, c'est des matchs qu'ils auraient pu perdre en d'autres temps. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher l'importance de ces petits records qui, moi, comme Philippe, ne me passionnent pas énormément.
Ça fait quand même un peu plus de 2 ans, quand même, sans perdre un match à l'extérieur. Alors, a priori, logiquement, jouer à l'extérieur, c'est plus compliqué que jouer à domicile. Ouais, ils ont perdu des matchs, le PSG a perdu des matchs, mais c'est au Parc des Princes. Ils ont perdu fin 2023 contre Rennes, Lyon.
Contre Nice.
Clermont, Lorient, effectivement, fin 2024 contre Nice et Toulouse. Bah, aucune défaite cette saison. Bah, limite, j'ai envie de vous demander pourquoi le PSG est plus fragile à domicile qu'à l'extérieur. Quoi. C'est quand même incongru.
Ouais, fragilité, cette année, non. Puisque cette année, ils ont fait
non, mais
ils ont
sur fait ces deux saisons, pareil,
ils sont solides partout cette année.
Cette année, ils ont fait à peu près pareil, domicile-extérieur. Ils ont dû faire 2 nuls chez eux et 4 à l'extérieur. Bon, ça change pas grand-chose à l'histoire du championnat. Non, il n'y a pas... La différence domicile-extérieur est devenue tellement ténue maintenant que vous avez vu qu'en Coupe d'Europe, l'UEFA a dit stop au but à l'extérieur, qui constituait un avantage trop considérable.
Le 12e homme, ça compte plus. Vous voyez le derby de Saint-Étienne-Lyon.
Oui, effectivement, si vous assommez l'arbitre. Et c'est...
Oh non, mauvais esprit, non, carton jaune. Carton jaune, il
arrive tout seul. On peut mettre des rouges directs, il faut demander à monsieur le texier.
On va en parler, ça va être un de nos sujets, effectivement.
Mais c'est enlevé par le VAR, donc tout va bien.
Ouais. Mais bon, un PSG qui ne perd pas l'extérieur, vous en parliez déjà. Qu'est-ce que ça dit du niveau de la Ligue 1? On va redire encore et encore. Ils sont tellement au-dessus que. Enfin, c'est vraiment. Ils sont encore plus au-dessus ou c'est derrière, ça traîne encore et toujours
Les deux.
Mais est-ce que ça ne dit pas plus du niveau de ce PSG-là et surtout de son état d'esprit? C'est-à-dire que c'est une équipe qui, aujourd'hui, n'accepte absolument pas la défaite, presse avec des attaquants qui pressent, etc. Ça vous évite de perdre certains matchs où vous aviez parfois, dans des saisons du Paris Saint-Germain, une équipe quasiment en vacances dans sa tête, qui jouait le match qui prenait le match par-dessus la jambe avec un entraîneur qui ne réussissait pas donc, à imposer un peu d'autorité à ses cadres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc tous les matchs sont joués sérieusement, même si ceux qui précèdent là les tout derniers tours de Ligue des Champions, on sent quand même que les joueurs n'ont pas non plus envie trop de se blesser. Mais quand même, il y a un collectif qui continue de fonctionner.
La nouveauté aussi sur ces 2 dernières saisons, c'est que le PSG reste sous pression très longtemps à l'échelon européen. Ça fait 2 saisons de suite qu'ils sont en demi-finale. Ce n'était pas le cas les saisons précédentes. Bon, mis à part l'exception, là, l'année du Covid avec le tour final un petit peu particulier. Mais donc ça, je pense aussi que ça maintient les joueurs. Même quand l'entraîneur fait tourner, ceux qui jouent à la place des titulaires veulent peut-être mettre le doute dans sa tête. Donc ça crée une émulation supplémentaire qui fait qu'ils peuvent rester plus longtemps concernés et à l'abri d'un relâchement comme il y avait parfois les saisons précédentes, surtout en fin de championnat. Donc moi, je vois que ça comme explication rationnelle à cette série actuelle.
Étienne parlait donc de la patte de Luis Enrique, peut-être l'autorité, peut-être d'un... Bon, je ne sais pas si d'un coach étranger, mais lui, il arrive vraiment à ce que tous ces joueurs ne se dispersent pas.
Non, mais il y a un autre aspect sur lequel on n'insiste pas beaucoup d'ailleurs, qui est une vraie performance du staff du PSG, c'est qu'il n'y a aucun blessé.
C'est vrai.
Et il n'y a aucun blessé depuis, je ne sais pas, des mois. À part, bon, il y a eu une entorse, de Zaïre Emery, enfin vraiment des babioles, des choses qui ont duré deux, trois semaines maximum, vraiment quasiment rien. Il n'y a aucun blessé, ce qui, un, permet justement de tourner, mais de tourner dans de très bonnes conditions, parce que finalement, quand vous jouez avec Mayulu, Ramos, Lee, bon, bah, pour la Ligue 1, ça suffit largement.
C'est un turnover choisi et pas
pour
subi,
la Ligue 1,
quoi.
Ça suffit largement. Il y a peut-être deux équipes qui arriveraient à battre le PSG quand ils ont une équipe comme ça, et encore, on n'en est pas très très sûr.
Oui, mais là aussi, c'est ce qu'on dit un petit peu maintenant. Moi, avec cette idée que l'effectif du PSG, je veux dire, survole évidemment dans une plus grande largeur la Ligue 1. Moi, au début de la saison, ce n'est pas ce qu'on disait les uns et les autres. On imaginait que Marseille pouvait éventuellement, même pour certains, faire le match avec le Paris Saint-Germain. C'était peut-être exagéré.
Pas moi.
Mais
hein.
Cet effectif-là du PSG, il n'est pas celui qui est le plus impressionnant. Là, pour le coup, c'est aussi la patte de Luis Enrique.
Bah, Luis Enrique, on va l'entendre. Lui, bah, il est content d'avoir décroché ce record.
Una lástima porque hoy es un día especial.
Et c'est une soirée spéciale. On vient de battre un record que très peu d'équipes dans le monde peuvent réaliser. Un record qui appartenait à un AC Milan exceptionnel et qu'on vient de battre. Je tiens à féliciter M. Galtier, l'entraîneur précédent, qui a lancé cette série, ainsi que ses joueurs et son staff. Ce sont eux qui ont initié cette dynamique. Et bien sûr, je félicite mon équipe et mes joueurs pour avoir atteint cet objectif. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Et pourtant, on ne le recherchait pas spécialement. 39 matchs sans perdre à l'extérieur. Il faut aussi un peu de chance pour aller au bout d'un tel défi. Mais malgré tout, il me reste un petit regret. J'aurais aimé que ce soit une victoire et non un match nul.
Une victoire en vez d'un empate.
Oui, il aurait préféré une victoire hier à Nantes, Luis Enrique, puisque vous en parliez, le PSG n'a pas forcé son talent, donc à Nantes, en mode gestion, avec ce but encaissé en fin de match, et on observe donc, Patrick en parlait, un PSG, un peu en dilettante ces derniers temps, en mode gestion, voilà. En fait... ça fausse pas un petit peu le championnat là, je dis pas qu'ils offrent un point à Nantes, mais dans la lutte pour le maintien, bah, ce point il va compter. Bon, le Havre et Saint-Etienne, ils voient pas ça d'un bel œil.
Ils n'ont pas offert
une équipe
le point,
B,
Eric.
Une équipe. Non, mais voilà, mais une équipe
Nantes
B.
Nantes est quand même allé le chercher aussi. Il faut pas considérer que c'est le PSG qui est maître de tout.
Effectivement.
Non, c'est contre le Havre. L'équipe était bien plus diminuée, enfin pas diminuée, mais en l'occurrence par choix.
Une équipe C. Enfin voilà.
Alors que là, contre Nantes,
Hakimi était pas là, Pacho était pas titulaire, Barcola était pas titulaire. En même temps, ils ne jouent pas à fond dans l'intensité.
Je crois que le fossé le championnat n'a jamais dérangé personne, puisqu'on reporte des matchs, on les décale, on fait comme on veut, etc. Donc je crois que tout le monde s'en fout royalement. Tout le monde s'en fout royalement, visiblement, puisque le conseil d'administration de la Ligue avait voté ce report du match de Nantes, ridiculement, qui n'avait strictement aucun intérêt. Donc je pense que tout le monde s'en fout de l'équité du championnat. Franchement, c'est pas un débat.
On va pas non plus obliger le Paris Saint-Germain à mettre les 11 mêmes joueurs sur toutes les journées de championnat pour ne pas fausser la compétition.
Mais au niveau de l'intensité, quoi, qu'ils mettent dans les matchs.
Franchement, j'ai pas l'impression que c'est le reproche qu'on peut faire au PSG sur cette saison, puisqu'on disait.
C'est fin de saison, en tout cas.
C'est plutôt une équipe qui joue un peu de la même manière.
Maintenant que le titre est dans la poche et qu'en championnat,
forcément, on peut pas reprocher à une équipe qui va disputer une demi-finale de Ligue des Champions de faire tourner un petit peu. Je pense que si c'était pas le cas, on le dirait, mais il est complètement fou. Il peut jouer et user toujours les mêmes joueurs.
Ils ont donné très peu de points dans la saison, donc c'est difficile de leur brancher quoi que ce soit.
Je trouve que c'est surtout
Nantes qui a cherché son point, parce que le but que Nantes met, l'action d'Abline, la percée, tout ça, c'est pas un but donné sur une erreur.
Une défense un peu passive quand même, mais le but est pas mal.
Bah oui, il faut le marquer, le but. Hein. Donc honnêtement, Nantes a fait le boulot. Nantes a été valeureux. Nantes a mis beaucoup d'intensité, de course à haute intensité. Alors peut-être contrairement au PSG. Bon, après, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui sont un peu en phase de décompression. On va peut-être en parler des cas individuels. Bon, Dembélé et Kvaratskhelia sur le match d'hier soir, ils étaient loin de leur meilleur niveau.
Ça, c'est, il faut être
mais ça, c'est individuel, ça, c'est pas un problème collectif.
Si, hein. si on se fie à ce qu'était la stratégie de cette saison du Paris Saint-Germain, oui, on devrait être inquiet, puisqu'on nous a expliqué qu'il fallait, au contraire, contrairement à ce qui s'est fait dans les années passées, jouer tous les matchs de la même manière, mettre de l'intensité dans les matchs de championnat, parce que sinon, on ne serait pas capable de le faire dans les matchs de Coupe d'Europe. Et si on pouvait mettre 6 ou 7-0 à des adversaires, comme peut le faire parfois le Bayern de Munich en Bundesliga, il ne fallait pas se priver de le faire. Donc c'est vrai que là, en ce moment, ils ne le font plus. Est-ce qu'ils vont être capables de rappuyer sur le bouton donc pour les matchs avec des champions
c'est ça, la
et
question.
Remettre la même intensité voilà. Moi, je trouve, là, il y a un petit doute quand même.
C'est ça, ce n'est pas un piège dans lequel ils tombent. Est-ce qu'il faut jouer à fond ces matchs avant
ils ont pris 4 points sur 6 en mettant 3 buts en 2 matchs, qui pour leur standard est très peu. Dans le contenu, ce n'était pas les matchs les plus spectaculaires et les plus sexy, entre guillemets, qu'ils aient fait cette saison contre des équipes, alors qu'ils jouent pour le maintien aussi, Nantes et Le Havre. Donc, c'est des équipes qui n'ont rien lâché, qui ont fait, qui elles, étaient plutôt à 120 ou 130%. Donc, ça nivelle un petit peu. Je pense qu'ils peuvent rappuyer pour une raison simple, c'est que le match retour contre Aston Villa, le PSG a pris totalement la marée pendant une demi-heure.
Et après,
à 20 minutes de la fin, l'équipe a réussi à se remettre d'aplomb et à reprendre le contrôle. Ça accrédite l'idée qu'ils en ont gardé un peu sous la pédale lors de ces deux derniers matchs de championnat et que contre Arsenal, ils seront au meilleur de l'intensité qu'ils peuvent donner. Enfin, moi, je l'espère pour eux. J'y crois parce que les scénarios sont des scénarios de matchs en gestion. Donc,
Est-ce que ces matchs-là contre Nantes, face au Havre, c'est des bonnes répétitions avant de jouer un tel cador comme
non,
Arsenal.
Mais c'est pas des bonnes
comment
répétitions.
Comment il faut jouer ces matchs-là en fait
c'est pas. Il faut les jouer tout simplement.
Il faut les jouer à
fond.
Il faut
être professionnel et les jouer comme Nantes. Hein. Ils auraient joué le match de Nantes entre Aston Villa aller et Aston Villa retour, que ça n'aurait pas changé le match retour. D'ailleurs, le match retour n'a quand même pas été une référence. Donc il faut les jouer tout simplement comme tout le monde le fait en Europe. Voilà, on joue les matchs.
Il faut ne pas
ils
perdre et ne pas avoir de joueurs blessés.
Ils ont une chance et un luxe. C'est qu'ils peuvent les jouer de manière assez décontractée, en sachant qu'ils sont déjà champions et qu'il n'y a pas de...
Donc c'est plutôt bien.
Donc, c'est plutôt relax pour eux. C'est plutôt... je pense qu'à ce stade de la saison, quand même... Il ne faut jamais oublier quand même, c'est une équipe très jeune. Hein, 24, un peu plus de 24 ans de moyenne d'âge quand Marquinhos est là. Je crois que même que quand Marquinhos n'était pas là, ils étaient en dessous de 24 ans. C'est une équipe quand même très jeune qui n'est pas habituée à gérer tout ça. C'est-à-dire des matchs de très haut niveau. Des matchs de très haut niveau, ils y sont habitués. Mais là, tout d'un coup, ça s'appelle quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions. C'est plus pareil. C'est un autre lent. Donc, gérer ça, plus gérer les matchs à côté, etc. Et le staff a un certain mérite à garder l'équipe quand même à peu près cohérente d'un match à l'autre. C'est pas si simple que ça. Je note d'ailleurs que je trouve quand même qu'il y a quelques joueurs qui ont un petit peu décroché. Je trouve que Ramos n'est plus vraiment là. Enfin, à force de pas jouer, des Ramos, des Zaïre Emery sont plus trop dans le rythme.
C'est
difficile de se maintenir toute une saison comme ça dans un rythme.
C'était assez marquant. Hier, Luis Enrique a lancé 5 remplaçants quasiment en même temps à partir de la demi-heure de jeu. Il a fait 4-1, sûrement pour concerner le plus de monde possible. Effectivement, là.
Oui, c'est la logique, mais. Moi, je pense quand même qu'il y a une erreur qui est faite là un peu en ce moment. Je sens l'équipe du PSG qui est en train un petit peu de décrocher mentalement. Elle a perdu cette idée d'intensité qu'elle a mis pendant quelques semaines. Et je ne suis pas si persuadé que ça qu'on le retrouve de manière automatique. Alors, il y a toujours l'éternel débat. Est-ce qu'il vaut mieux se préserver un peu pour en garder sous la semelle et être bien frais pour les matchs qui comptent? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir cette répétition dans les efforts et que finalement, jouer à peu près le même type de match? Je n'ai pas une réponse absolue, mais j'aurais plutôt quelques petites inquiétudes sur la manière dont ils appréhendent leur match.
Oui, je partage l'interrogation d'Étienne. Moi, pour l'instant, je leur laisse le bénéfice du doute. La réponse, on l'aura contre Arsenal.
Ben non, on la verra peut-être.
Et peut-être
déjà
contre Nice vendredi soir.
C'est un match intéressant,
oui.
PSG-Nice.
Déjà, ce n'est pas un match contre une équipe qui joue le maintien.
Là, c'est
d'autres données. C'est une équipe qui doit aller chercher une qualification européenne qui n'est pas acquise. Hein. Pour l'instant, Nice n'est pas encore... ils sont plutôt dans la queue du peloton des prétendants à l'Europe, donc il faut remonter. C'est une équipe, Nice, qui a déjà réussi au Parc des Princes contre le PSG version Qatar, donc qui espère peut-être refaire ça.
Elle a déjà gagné, donc on le disait.
Et moi, je ne serais pas surpris que sur le match de Nice, ça ne va peut-être pas plaire à Patrick parce que c'est son équipe, mais que le Paris Saint-Germain
s'énerve un peu.
Exactement.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut
remettre
faire, justement,
l'intensité qu'ils ont
perdue. Est-ce que ça doit servir de répétition générale, justement, à 4 jours
du
match?
Moi, je crois que oui.
Voilà. Dans leur intérêt, il faudrait qu'ils montent un peu en puissance entre les matchs très mous qu'ils ont fait contre le Havre et Nantes et ce qu'ils devront faire contre Arsenal. Il faut peut-être un sas de monter en puissance, quoi.
Philippe, ouais.
Probablement, oui. Oui, donc je suis d'accord.
Et ça
d'accord,
veut dire
ce match contre Nice peut servir à ça.
Ça veut dire qu'il faut mettre l'équipe type.
Quasiment. Ah bah, je pense que c'est ce qu'il fera à peu près.
Il y en a qui sont dans la naphtaline là depuis 3 semaines. Pacho, il joue jamais. Bon, c'est bon.
Ah, il est rentré en fin de match hier.
Ouais, bon. Maintenant, il faut.
Je suis quand même très
étonné que des étrangers, puisque le club du Paris Saint-Germain, il n'y a que des étrangers. Dans tous les postes décisionnaires, ce ne sont que des étrangers. Ce report du match de Nantes me sidère.
Finalement, qu'en France, qu'on voit ça. Est-ce que ça a servi à quelque chose?
Un, ça ne sert absolument à rien. C'est complètement inutile. Deux, ça vous oblige à avoir le match de Nantes entre les pattes maintenant. Enfin, ça a obligé à l'avoir cette semaine.
Oui, forcément. C'est déplacer un problème et ne pas le résoudre.
Et à l'étranger, on ne connaît pas ces magouilles-là. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça n'existe pas, quoi. On dévalorise le championnat au passage, apparemment ça tout le monde s'en fout complètement.
Peut-être parce qu'à l'étranger on gagne des Coupes d'Europe, qu'en France on n'en gagne pas, donc on cherche désespérément quelle est la solution pour les gagner. Et
on ferait bien d'imiter les étrangers plutôt que de faire des solutions à nous, franco-françaises, qui ne marchent jamais.
D'autant qu'en France, la finale de la Coupe nationale a lieu après la fin du championnat. Ce n'est pas le cas en Espagne, puisqu'elle aura lieu ce week-end alors que le championnat n'est pas joué. Donc, il y avait d'autant moins de raisons de demander le report de ce match à Nantes, quoi. Enfin,
ça n'a aucun intérêt.
C'est des manies l'idée de l'intérêt supérieur du foot français. Donc, il faudrait déranger Nantes pour arranger le PSG, en fait. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Pour prendre la défense quand même un tout petit peu des dirigeants du PSG là-dessus, de mémoire, il n'y avait quand même que 6 jours, donc entre les deux matchs.
Certes, mais
là, pour le coup, ils n'ont pas demandé le report. Donc, cette fois-ci, entre leurs deux matchs face à Arsenal, parce qu'il y a 8 jours, ils jouent mardi.
Tout à fait.
Ensuite, le mercredi, donc ça change quand même un tout petit peu.
Enfin, personne ne le fait.
Non.
Ça existe dans plein de clubs, jouent le mercredi, puis
le mardi. Tu fais ça en Liga, tu demandes ça en Liga, Théba, si tu exclus de la compétition.
Est-ce que le résultat de vendredi contre Nice servira vraiment d'indication sur ce qui va se passer
Le résultat, pas forcément, mais le match, oui. Le match montrait que, effectivement, je suis complètement d'accord avec Patrick et Étienne. Ce match-là, c'est le match où on rassemble un petit peu les forces en se disant on se remet dans le rythme, quoi. Parce que là, les deux derniers matchs, c'était
parce que le PSG n'a pas souvent un peu raté son match juste avant les grandes échéances européennes.
Cette année, ils n'ont pas perdu un seul en championnat, donc ils n'ont pas dû les rater, logiquement.
Par le passé,
cette année, les échecs du PSG, c'était surtout en phase de Ligue, en Ligue des Champions, où ils ont...
Oui.
Perdu des matchs
perdu
à leur portée,
ou
au contraire étaient très décevants alors qu'on les attendait. Enfin, c'était une équipe qu'on cherchait un peu, qui se cherchait elle-même et qui a fini par se trouver. Mais en championnat, c'est un sans faute que fait le PSG cette saison.
Parce qu'il y a l'intensité, mais il y a aussi l'aspect technique et collectif.
Et la régularité.
Là, je trouve que dans les derniers matchs du PSG, en créativité offensive, ça a aussi baissé. Donc, tout va ensemble. Quand vous ne mettez plus l'intensité, vous mettez à moins bien combiner les uns avec les autres. Et voilà, le même résultat.
Moi, l'inquiétude que j'ai, elle est surtout centrée sur un joueur, c'est Dembélé, qui a eu un début de saison.
Il t'inquiète.
Oui, il m'inquiète parce que où est le vrai Dembélé? En début de saison, c'était un joueur qui mettait le feu dans les défenses adverses, mais qui était souvent très inefficace. Ensuite, il y a eu un état de grâce, une phase où toutes les planètes étaient alignées. Il était à la fois exceptionnel dans les différences qu'il faisait et d'une efficacité clinique. Et là, il retrouve un peu ses mauvais côtés, ses tirs dans les nuages, ses mauvais choix.
Il n'y a plus tant de tirs que ça sur les derniers matchs.
Et on voit qu'il s'énerve. Et donc, lui, je pense qu'il doit se reprendre. Et peut-être que Luis Enrique, qui le connaît bien, doit faire un petit travail particulier sur lui.
Bon, à suivre dès vendredi. Au Parc des Princes face à Nice, il y aura donc ce grand rendez-vous, la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Mardi prochain, ce match à Arsenal, une demi-finale à suivre en direct, en intégralité, sur Radio Foot International, avec sur RFI, avec un Radio Foot juste après, pour le débrief.
Comment vivez-vous la situation? Comment l'analysez-vous? Et comment prenez-vous cette décision d'exclure Amin Harit à la 20e minute?
Silva peut apporter le danger, la mauvaise conduite de balle, il vient buter sur Donnarumma.
François Le Texier devait sortir un carton rouge.
Oh là là, oh là, 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 là.
Le changement. Hein.
Un pénalty annulé et la bronca, allez, évidemment, du Bernabeu. Je lui conseille de rentrer par le premier vol ce soir. François Le Texier,
une incohérence totale.
Tolisso en difficulté, Stassin se met au diapason de ses partenaires.
Oh le rouge, trop, oh le rouge.
Mais trop sur
Willy
ce
pour François.
Oui, vas-y, Willy.
Le contact est sur le pied. Je t'invite à venir voir les images, s'il te plaît.
Oui, ok.
Voilà, tu lui fais un
fixe ça.
Là, t'as l'arrêt sur image.
Oui, d'accord.
Et là, en dynamique.
Eh ben, c'est bien pour jaune.
Ouais, ça me va aussi.
Jaune, numéro 32, Stassin, ouais. Très bien, merci.
C'est ça.
C'est carton jaune, finalement.
La difficile vie d'arbitre avec ses décisions contestées et incomprises, ses appels à la VAR parfois incohérents et bon, ces matchs qui s'enchaînent les uns après les autres. François Le Texier vient peut-être de vivre la semaine la plus éprouvante de sa carrière d'arbitre. Mercredi dernier, il dirigeait donc un importantissime Real Madrid-Arsenal, quart de finale de la Ligue des Champions. Et quatre jours plus tard, il enchaînait avec le bouillant derby Saint-Étienne-Lyon, match guère reposant puisque bon, une énorme polémique est née après... À la suite d'une de ses décisions, ce fameux carton rouge sorti à l'endroit du Stéphanois Lucas Stassin pour une grosse faute sur Corentin Tolisso, le Lyonnais, un carton rouge qu'il a transformé en jaune après avoir fait appel à la VAR, une décision jugée erronée le lendemain par la direction de l'arbitrage. François Le Texier, dont on apprend aujourd'hui qu'il n'arbitrera pas ce week-end, lors de la prochaine journée de Ligue 1, laissé au repos par la Ligue nationale de football. Alors, hasard ou coïncidence, sanction, souci de le préserver, qui commence?
Bah déjà, je pense qu'ils ont, c'est reconnaître qu'ils ont fait une erreur à la DTA, à la direction technique de l'arbitrage. Le mettre à Saint-Étienne-Lyon 4 jours après Real Arsenal était très malvenu. Il faut savoir préserver un peu les arbitres. Effectivement, ils ont besoin de souffler. Un arbitre, ça fait quoi? Ça fait... Dans la saison, entre 22, un arbitre de ce niveau-là, il va faire à peu près 22 matchs de championnat dans l'année.
Là, il en a fait 30 déjà cette saison.
Ah non, 30 journées
de
Ligue 1
Au total. Non, non, au total.
Ah non, au total, en comptant l'UEFA.
Toutes les compétitions confondues.
Ah mais en comptant, bon, oui, donc une vingtaine. En une vingtaine, oui, bien sûr que ça compte. Et les matchs internationaux, sélections, etc., etc. Mais une vingtaine de matchs de championnat suffisent. Enfin, suffisent. C'est déjà une grosse implication pour un arbitre, et notamment pour un arbitre international. Donc déjà, c'était une erreur de le mettre à Saint-Étienne-Lyon, qui nécessairement aura été un match chaud, avec des incidents potentiels, malheureusement, qui ont eu lieu. Les incidents
en fait,
sur le terrain
meilleurs
et en
arbitres
dehors.
Ont supposé tel, donc en fait, il ne faut pas les mettre sur les matchs non, les plus
c'est
importants.
C'est ça l'argument de la Ligue, il faut mettre les meilleurs sur les gros matchs.
J'essaie de suivre la logique de Philippe que je ne perçois
mais
pas.
Bien sûr.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Quand vous regardez,
parce que moi, j'ai
Il faut faire un calendrier des arbitres exactement comme il faut faire un calendrier des joueurs. On ne fait ni l'un ni l'autre.
On fait tous les ans à l'équipe le numéro spécial salaire. Et donc, maintenant, je suis chargé toujours du salaire des arbitres. Donc, parce que maintenant, les arbitres gagnent quand même aussi de l'argent. Beaucoup moins que les joueurs, mais ils gagnent de l'argent. Et donc, j'ai fait un article exactement sur Le Texier, qui, la saison dernière, est l'arbitre sans doute européen quasiment qui a fait le plus de matchs. Et il a même arbitré la finale de l'Euro. Donc,
il a été sacré meilleur arbitre du monde l'an dernier. Voilà.
Et donc, dans la saison, il a fait 36 matchs. C'est-à-dire, c'est quand même pas énorme. Quand même pas énorme. Donc je vois pas où est la logique que vous ne pouvez
pas
faire.
Parce que tu sais pas ce que
c'est
qu'arbitrer un match de haut niveau.
Oui, mais je ne sais pas non plus ce que c'est. Je ne sais pas non plus ce que c'est que d'être footballeur professionnel. Je ne l'ai jamais été.
Non.
Et je vois que les joueurs font bien plus que 36 matchs dans la saison. Donc je trouve que c'est un faux problème. Ce qui est un vrai problème, c'est la manière dont ça s'est passé pour le coup. À Saint-Étienne, la manière dont il s'est déjugé lui-même, l'intervention du VAR, ça, ce sont des vrais débats. Les autres, je ne les comprends pas bien.
Il y a la débauche physique et la débauche émotionnelle aussi.
Mais
parce que Real Madrid
a un problème, parce que
vous
dites, Eric, qu'il a arbitré 30 matchs cette saison. Mais est-ce que c'est en tant qu'arbitre central ou est-ce que vous prenez en compte les matchs qu'il a officié en tant que. Mais ça fait trop, en fait. Et surtout, pour moi, le gros problème que met en avant cette affaire, c'est que les arbitres VAR sont jugés partis quand ils appellent l'arbitre central, puisqu'eux-mêmes peuvent être arbitre central la semaine suivante.
Mais c'est pas un bon process.
Mais c'est très mauvais, parce
c'est
que
pas un bon
Monsieur Delageau,
qui était
va remplacer François
Le
Texier vendredi soir au Parc des Princes.
Belle décision de la direction technique nationale. Des génies.
On marche sur la tête. C'est-à-dire que, admettons qu'on considère qu'il faille reposer ou sanctionner de manière déguisée François Le Texier pour son mauvais arbitrage. Soit, mais on ne met
c'est
pas à sa place
de la VAR,
le responsable de sa principale erreur, voilà. Monsieur Delageau.
C'est lui, on a attendu en début, rien, en fait. Début de séquence. Viens voir, j'ai vu que la faute sur le pied, plutôt, je t'invite à aller voir
et
l'image.
Et puis, il y a un problème chez Monsieur Le Texier global, vous l'avez montré avec le montage qu'on a entendu, de cohérence. Parce que Amin Harit soit expulsé pour atteinte potentielle à l'intégrité physique de Marquinhos, admettons, c'est sévère, mais ça s'entend. Mais dans ce cas-là, il faut expulser Singo sur Donnarumma et Stassin sur Tolisso.
Non, mais
il faut être quand même logique soi-même.
Non, le vrai problème, c'est qu'il l'avait fait d'expulser Stassin.
Oui. Mais c'est, au final,
cette
il a...
intervention, c'est l'intervention du VAR. C'est-à-dire que c'est l'utilisation. Non, mais c'est,
question,
tu me laisses terminer,
oui.
C'est l'utilisation du VAR parce que Le Texier, il prend la bonne décision. Prend la bonne décision. On l'appelle, on lui dit j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas pris la bonne décision, etc. Tu vas, pour le coup, là, il y a peut-être un peu de pression. Tu te dis mais s'ils sont plusieurs à me dire ça, ils sont des arbitres comme moi et des gens compétents qui ont toutes les images. Tu vas, tu viens en voir les images en me disant, forcément, j'ai dû me tromper. Et voilà, tu cherches à me trouver le moyen de te prouver à toi-même que tu t'es trompé. Et tu te trompes deux fois parce qu'en fait, tu t'étais pas trompé.
Le thème du débat, c'est de voir si la fatigue physique ou mentale, l'enchaînement des matchs, peut influer sur ces dérapages, ces écarts.
Moi, je pense ça ne peut que faire du mal.
Je pense qu'un monsieur Le Texier, au meilleur de sa forme, aurait eu suffisamment le caractère de lucidité pour dire, attends, remontre-moi, excuse-moi. Montre-moi un autre angle, s'il te plaît, etc. Là, il a décidé très très vite, visiblement, comme le dit Étienne, puisqu'on l'appelait pour, c'était pour le déjuger. Il dit ah bon, alors j'ai dû me gourer. On voit, il regarde très rapidement l'image. Ça dure 10 secondes, pas plus. Il reste pas plus de 10 secondes et il expédie le truc en disant d'accord, alors jaune, alors.
Très effectivement, alors, jaune, il y a alors. Une image,
un angle,
et surtout la fin on ne voit pas la totalité du geste. On voit le contact final. On ne voit pas la puissance qu'il met
dans
son geste.
On peut reprocher au VAR.
C'est mal fait.
Il est clair que le VAR n'a pas bien travaillé, puisqu'il a, en gros déjà, je trouve que son jugement est complètement farfelu déjà. Mais je pense qu'il y a une énorme... il faut aussi savoir qu'il y a des stages d'arbitre et il y a c'est un bourrage de crâne. On en fait des robots, les arbitres. Et ça, tout le monde est responsable. Également, nous, les médias et autres, qui sont toujours... Ah non, mais il faut uniformiser, vous comprenez? Quand Harit est expulsé, il faut que Singo le soit aussi. Oui, mais chaque action est très différente. Et en fait, il faut une fraîcheur d'esprit. Et moi, je plaide au contraire pour que les arbitres aient une certaine liberté d'expression et un peu de feeling. Parce que ce qu'il a dit de Lajot, mais c'est une honte. Et c'est un très bon arbitre en plus de Lajot. C'est une honte, c'est-à-dire il dit non,
oui,
c'est pas
sur
ça.
Le pied,
ce qui est une honte, c'est sur le pied.
Voilà.
Donc c'est
mais ça n'a rien à voir.
Oui, on peut casser une jambe quand même. Hein.
Mais évidemment, et c'est par derrière, c'est sur le côté, la cheville est comme ça. Mais ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et ça, c'est les trucs qu'ils entendent dans les stages où on leur bourre le crâne. Alors c'est des repères. Alors si le gardien touche pas la balle, c'est penalty. Non, faudrait peut-être qu'il y ait faute peut-être pour qu'il y ait penalty. Tout est comme ça. Et la DTA travaille tellement mal, ils robotisent les arbitres et un bon arbitre comme Le Texier, ils ont réussi à en faire un mauvais arbitre.
Je pense qu'il faut surtout séparer clairement les arbitres VAR des arbitres centraux et ne pas faire des arbitres centraux les futurs arbitres VAR de leurs propres collègues. Ils s'aiment pas tous. Il y a plusieurs chapelles entre guillemets dans cette corporation. Très malsain.
Je pense que l'inverse est plus grave, c'est-à-dire qu'ils se soutiennent beaucoup. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais
si
la plupart du temps, ils se soutiennent dans des décisions misérables. Parfois, le VAR dit « Oui, il n'y a pas d'erreur majeure. On continue comme ça. »
Ils se couvrent,
sur des pénalties bidons qui
sifflent
toute l'année.
Alors, pour conclure ce sujet, on va écouter Antoine Camboire, l'entraîneur nantais, qui, lui, pense effectivement qu'il faut que les arbitres aussi aient droit à du repos entre les matchs.
Ouais.
Monsieur, donc Le Texier, j'ai vu dans la semaine, il a arbitré quand même Real Madrid contre Arsenal. De temps en temps, c'est comme les joueurs, faut se reposer des fois. Des fois, on peut être un peu fatigué. Et c'est pas parce que tu es le meilleur arbitre, voilà, soi-disant, moi, le meilleur arbitre, que tu dois enchaîner tous les matchs. C'est un homme comme tout le monde. Donc il y a de la pression, il y a des enjeux terribles. Ben, il faut aussi que, comme les joueurs, il faut de temps en temps se reposer.
Voilà, il faut se reposer. Bon, bah, de toute manière, les problèmes d'arbitrage, malheureusement, on n'a pas fini d'en parler. Les problèmes de VAR, maintenant, également. Bon, on va faire une pause aussi, nous, également. Ah. Voilà.
Ça va calmer les esprits.
Est-ce que ça va calmer un petit peu Philippe Doucet, qui était quand même monté en pression quand même.
Une chanson de François Le Texier.
Non, là, c'est le groupe de la chanteuse ghanéenne Florence Adouni qui va nous faire du coup. Bimba de kidola mandulinya Mampela suru dola sala bagi kamina ti bimba de kidola mandulinya La de la popela maraman La de la popela maraman Tino sala wo Gimme de la popela maratola na tino taba La de la popela maratola na tino taba Mampela suru dola sala bagi Mina ti bimba de kidola mandulinya Mampela suru dola sala bagi kamina ti bimba de kidola mandulinya La de la popela marama La de la popela marama Tino msara wo Yeme de la popela mora tola na tino mtaba La de la popela mora tola na tino mtaba Yeme de la popela mora tola na tino mtaba Camila ti bimba de kidola mandunya Mampela puro dola sale bagi Camila ti bimba de kidola mandunya La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msara wo Gimme de la popela mora toda na tino mtaba La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msara wo Gimme de la popela mora toda na tino aura fait du bien cette musique de Florence Adouni. Pella Surué, ça s'appelle. Voilà, c'est sympa. De quoi nous amener vers la première ligue anglaise. Il n'y a aucune relation.
Ah bah,
mais
Ghana, ça met Ghana, du soleil sur Ghana, la langue anglaise. Ouais, bah ouais. Ça va très
Allez,
bien.
Hop. A huge win, une grande victoire pour Manchester City hier en effet, d'autant plus belle qu'elle a été acquise dans le temps additionnel face à Aston Villa, 2-1 à l'Etihad Stadium. Les Citizens qui prennent 3 points face à un concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions et qui confirment leur retour en grâce après leur terrible hiver. 7e match consécutif pour Man City, sans défaite, dont 6 victoires, toutes compétitions confondues. Ça y est, on a retrouvé le Grand City, Patrick.
Il était temps. Hein. Non, ce n'est pas le Grand City, mais au moins par rapport à l'énorme creux qu'a été cette saison, puisque depuis pratiquement le Ballon d'Or gagné par Rodri, l'équipe a complètement disparu, c'est complètement...
La blessure de Rodri, surtout.
La blessure,
plus que le ballon d'or.
Les blessés aussi en défense. Il y a tout un tas de... Il n'y a pas une cause unique, mais il y a tout un tas de facteurs qui ont concordé pour faire de cette saison un ratage dans les grandes largeurs. Et là, depuis, effectivement, depuis quelques matchs, ils sont, entre guillemets, rebectés. Ils rejouent avec de l'efficacité. Il y a, il y a eu l'arrivée de Marmouche.
Comme on dit dans les vestiaires à Nice. Mais...
Il y a eu l'arrivée de Marmouche qui a quand même apporté, qui a fait du bien à cette équipe. Avec un joueur qui pouvait débloquer des situations, qui apportait un peu de piquant à Land aussi en attaque.
Ils ont mis 200 millions
voilà,
quand même. Hein.
Oui, mais au moins, ce n'est pas de l'argent foutu par les fenêtres. Donc voilà, c'est maintenant, ça restera une saison complètement ratée pour City hein, ouais. Par rapport aux ambitions du club.
Oui, mais enfin, s'ils font troisième,
c'est
leur classement actuel.
Il y a 5 clubs en 3 points.
On va parler de cette bataille.
S'ils font troisième et qu'ils gagnent la Coupe, bon, on dira finalement pour un flop, bon, ça va encore, parce que la concurrence en Angleterre, quand vous faites un flop, vous êtes 14e, hein, comme Tottenham et Manchester United.
Ça, c'est un vrai flop.
Non.
Ouais, surtout que même en Angleterre, maintenant, finalement, tout est vu sous le prisme de la Ligue des Champions. Donc, à partir du moment où vous assurez en fin de saison votre qualification directe pour la Ligue des Champions, vous n'avez jamais complètement raté votre saison. C'est un peu triste à dire parce que les enjeux économiques sont tels, mais un club comme City, comme beaucoup d'autres, ils pensent à ça en premier.
Ils ne peuvent pas rater la Ligue des Champions.
Mais
ce
n'était pas forcément évident parce qu'ils s'enfonçaient. Ouais, ils ont perdu Haaland en plus.
Ils ont été jusqu'à la 7e place et un peu décroché.
Comment ils ont fait pour. En plus, ils ont perdu Haaland. Bon, il y a eu Marmouche et peut-être d'autres petits. Ressorts qui ont fait que maintenant, parce que à un moment donné,
après de là où du niveau qu'ils avaient, même si alors Patrick parlait du ballon d'or, c'est surtout l'absence du ballon d'or qui d'ailleurs fait remarquer à tout le monde que peut-être il y avait quelques raisons de lui avoir donné le ballon d'or parce qu'une équipe comme City qui survolait donc toutes les compétitions, sans Rodri finalement c'était plus du tout la même équipe.
Très corporate, c'est bien.
Hein non, c'est rien à voir avec ça. Non, pour le coup, non, là plutôt la défense, et là tu devrais pouvoir me rejoindre là-dessus. D'un joueur d'équipe qui peut aussi être récompensé, pas simplement d'un joueur de statistiques.
Qui faisait beaucoup pour l'équilibre de City. Bon, il y a eu d'autres facteurs.
Des absents en défense.
Il y a eu d'autres
beaucoup,
facteurs, beaucoup d'absences, etc. Mais ce qui était intéressant hier, moi j'ai regardé le match et c'était un très bon match d'ailleurs. Pour une fin de saison où ce n'est pas les meilleurs matchs, paradoxalement. C'est plus les matchs pour les supporters un peu, qui ont envie de savoir si leur équipe va être européenne, va descendre, va gagner la Ligue des Champions et autres.
Il y a
beaucoup d'enjeux partout. Mais
Paris Saint-Germain avait privé d'Europe ces deux équipes. Donc elles étaient un peu plus fraîches peut-être.
C'est vrai aussi, mais
c'est suffisamment rare pour le souligner.
En tout cas, c'était effectivement un très bon match et donc un plutôt bon Manchester City. L'équivalent de ce qu'il était avant quand il a été champion 5 années sur 6, mais c'était un plutôt bon Manchester City avec beaucoup de grognards. Avec ceux qui vont arrêter, quoi, les De Bruyne, les Bernardo Silva et autres, qui montrent que le pourquoi City a été une super équipe, parce que les grognards, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout et ils tiennent la baraque encore jusqu'au bout.
Et on a vu Pep Guardiola véritablement exulté à la fin du match, et notamment juste après ce but libérateur, synonyme de victoire, inscrit par Matheus Núñez. Pep Guardiola ravi de la prestation de son équipe en ce moment.
Bien sûr que c'est important. Pas besoin d'être un expert pour comprendre qu'on a affronté Aston Villa, l'une des meilleures équipes du moment. On l'a encore vu récemment contre le Paris Saint-Germain. Ils sont en grande forme avec un excellent entraîneur et beaucoup de qualité. Mais on s'est comporté comme on sait le faire, comme on l'a déjà fait par le passé, avec de l'engagement, de la rigueur, sans concéder grand-chose. On aurait pu créer un peu plus, c'est vrai, mais on a su garder le contrôle sur la majeure partie du match. Et nos quatre défenseurs ont été tout bonnement incroyables. Quant à la qualification pour la Ligue des Champions, oui, c'est un objectif. Mais en même temps, il faut rester calme, concentré et penser à la demi-finale de Coupe qui arrive. Et puis, il restera quatre matchs décisifs, deux à domicile, deux à l'extérieur, qui seront chacun comme une finale. Donc on va y aller jour après jour, étape après étape.
And game by game. Oui, il reste 4 matchs de championnat à disputer. Cette lutte pour la C1 la saison prochaine est des plus serrées, avec donc 5 équipes pour 3 places. Si l'on considère que Liverpool
et Arsenal
sont à l'abri, ont déjà leur ticket en poche. Derrière, on a donc Manchester City 61 points, Nottingham Forest 60, Newcastle 59, Chelsea 57, Aston Villa 57. Aston Villa qui a joué également son match de la 34e journée. Donc Nottingham Forest, Newcastle, Chelsea vont répliquer ce week-end. Donc faites vos jeux. Ça fait 3 tickets pour 5 candidats.
Bon, après, les autres sont en Europa League, vous inquiétez pas.
Non,
pour
mais
eux,
voilà,
ça
mais
ira,
après, la Ligue des Champions, c'est pas pareil. Qui vous voyez flancher dans cette course? Nottingham Forest, c'est la surprise un petit peu.
Moi, quand on
là-dedans.
Me pose cette question-là, je regarde le classement et je dis ceux qui sont dans la position d'atteindre cette qualification-là, bah, je les donne comme mes favoris. Non, mais plus sérieusement, franchement, on imagine quand même que voilà, City qui s'est redressé, qui a maintenant cet
objectif-là. Ça y est, ils sont lancés maintenant, il n'y aura pas de nouvelle rechute.
Ah non, moi j'ai le sentiment que voilà, collectivement, ils ont retrouvé quand même quelque chose et que ça va leur permettre, grâce aussi aux individualités assez grognières qui veulent partir sur une bonne note, d'accrocher la Ligue des Champions.
Nottingham Forest, bon, peut-être c'est le... On va le désigner, parce que...
Ouais, c'est eux qui sont
un
peu...
On ne les attendait pas là.
Non, on ne les attendait pas là. Ils sont toujours là, mais un peu moins fringants. J'espère
ils ont gagné ce week-end après 2 défaites d'affilée.
Ouais, j'espère qu'ils tiendront
jusqu'au bout.
Ils ont
gagné à Tottenham. Même
oui,
si tout le monde va gagner
pas,
à Tottenham en ce moment.
Ce n'est pas le plus difficile, mais malheureusement, tristement. Mais en tout cas, ce ne sera pas si simple pour notre Forest jusqu'au bout.
Mais ça serait quand même une sérieuse ironie de l'histoire s'ils arrivaient à être en Ligue des Champions, puisque la saison précédente, lorsqu'ils sont remontés en Première Ligue, déjà, ils ont eu du mal à se maintenir. Et puis, ils avaient tellement dépensé, ils avaient tellement fait de transferts, ils avaient fait sauter le plafond qu'ils ont été sanctionnés de 4 points hein, par la première, il ne faut pas l'oublier.
L'an dernier.
Donc ils étaient un peu des hors-la-loi en Première Ligue. Donc là, l'image de la petite équipe venue de nulle part, elle en prend un petit coup quand même. Et puis c'est un club historique. Hein. Mais il faut saluer quand même le boulot de Nuno Espirito Santo qui a donné un style et une cohérence à cet assemblage de joueurs un peu hétéroclites. Donc bravo à eux. Quoi. Il y a des joueurs qui se révèlent hein, cette saison. Gibbs White en attaque. Aina, le Nigérian, sur le côté droit.
Ils avaient déjà des bons joueurs, mais ils étaient 17e.
Mais là, voilà,
avec ces bons joueurs, ils étaient 17e. Il y a eu un bon boulot.
On va dire créer un petit miracle avec ces joueurs-là. Donc,
mais il faut qu'ils aillent au bout, ce qui n'est pas encore fait. Parce que...
Là, ils jouent Ipswich ce week-end, Ipswich qui est destiné à descendre,
mais qui peut encore se sauver
si un miracle se produit. Donc c'est miracle contre miracle.
Et Chelsea sera dans le lot ? Sera dans le wagon, le bon wagon ?
Je suis comme Étienne. Les équipes qui sont devant, elles ont un gros avantage. Il n'y a pas de miracle.
En même temps, c'est très serré. Hein.
Mais il faut.
Mais on répond ça quand on ne sait pas. Et donc, c'est rare que Philippe et moi, on ne sache pas. Mais là, on ne sait pas. Ceux qui sont devant, c'est le plus simple pour répondre.
City tient le bon bout parce qu'ils ont 4 points de plus que Chelsea et Aston Villa. Et en plus, leur différence de but, c'est presque un point supplémentaire en cas d'égalité. Donc, City, vraiment, à mon avis, il sera.
Voilà.
Et ensuite, ce serait quand même beau pour l'histoire, pour la nostalgie, que ce soit Nottingham Forest.
Oui, Newcastle. Voilà.
Le 5e sera Ligue des Champions aussi, puisque l'Angleterre fait partie des deux pays qui auront un club supplémentaire.
5 équipes pour 3 places. Aston Villa, quand même, a perdu.
Non, Aston Villa sera sûrement en
Europe. Depuis l'élimination.
Probablement en Europa
League. Ils ont pris un petit coup sur la tête. Quand même.
En même temps, ça s'est joué à dernière minute, à dernière seconde. Ils tenaient un nul à City.
Mais c'est dur à digérer.
Donc, ils ne s'en remettront pas.
Demandez à Lyon.
La comparaison. Effectivement, les enchaînements sont parfois difficiles. Bon, je note. En tout cas, le verdict, ça sera le 25 mai, le soir de la dernière journée.
Première Ligue.
Il y aura Nottingham-Chelsea. Ça va être intéressant, ça, ce match-là.
Dernière journée.
On va faire la décision.
Dernière journée, intéressant.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs. C'était un régal
de
vous avoir. Merci à Maestro Salerno, à la réalisation David Finzel, encore une fois, et à Pierre-Olivier Guérin. On avait la crème de la crème, assurément, aujourd'hui. On se retrouve demain. Allez, à bientôt.